chose promise, chambre du.
Oui, bonjour. Hier soir, je regardais une émission sur Arte. C'est une soirée thématique animée par Pipédia concernant la crise. Et j'ai compris quelque chose. Bon, vous allez me dire que j'étais bien naïf jusqu'à présent, mais vaut mieux tard que jamais. J'ai donc compris qu'il existait entre les hommes politiques, de tous bords, hein, de tous partis, un pacte de non-agression concernant bien, les rémunérations, le patrimoine et tout ça. Et justement, ce pacte de non-agression a été transgressé hier soir par un militant altermondialiste hein, d'extrême gauche qui a interpellé Copé en lui parlant notamment de l'école privée où était son gamin, école privée à lycée privé à 4000 euros par trimestre. Et Copé s'est senti agressé, n'a pas arrêté de lui dire qu'il faisait preuve de violence, d'agression, alors que ce militant était tout à fait correct hein, dans ses propos. Mais voilà, il a rompu le pacte. Et c'est vrai qu'en faisant le bilan, jamais j'ai entendu des hommes politiques s'interpeller sur leur patrimoine, leur rémunération et tout ça. Voilà, très intéressant cette émission. Ciao.
Salut, à Perpignan, le repère aura lieu le jeudi 30 avril au Café Lisboa, place Rigaud, à 18h30. Le cri d'horreur de la semaine, la mystérieuse question en cours et l'insurrection des consciences qui s'invitent en rose et orange.
Bonjour, c'est Michel Jean-Jean, ex-habitant de Longwy. J'appelais simplement pour rappeler qu'en 1981, Monsieur François Mitterrand, nouvellement élu président de la République, est venu à Longwy promettre qu'aucun boulon des aciéries ne serait démonté. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune aciérie et le nombre d'emplois a dramatiquement chuté. C'est une région sinistrée. Voilà, c'était simplement pour la mémoire et pour rappeler que les promesses sont de tous bords.
Salut Daniel. J'ai écouté ton émission d'hier sur Gondrange et la fermeture de l'usine. Bon, ben Sarko, il raconte toujours des mythos, comme d'habitude. Mais bon, moi, ce qui me fait plus peur, c'est que toutes nos techniques, tout notre savoir-faire sur la métallurgie est en train de partir ailleurs, en Inde. Au moins, il nous restera les musées, la plage, la Méditerranée, la Tour Eiffel. Un pays musée, peut-être. Allez, salut.
Bouleversant reportage que celui d'aujourd'hui sur Gondrange. Révoltant aussi, mais qui donne envie de ne pas se soumettre. Sénèque déjà disait il y a de 20 siècles, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors, osons, résistons, ouvrons des débats partout où on le peut pour envisager des ripostes à ce que l'on nous présente comme inéluctable. Profitons du 1er mai pour nous rencontrer et en discuter. À Limoges, le collectif du 19 mars et les copains-copines du Repère vous invitent après la manif au pique-nique et si on continuait au Champ de Juillet avec repli sale blanqui s'il pleut pour une journée festive et engagée.
Elisabeth de Strasbourg, eh bien aujourd'hui je suis particulièrement contente d'écouter votre émission. Parce que votre émission, elle parle des petits patelins de Lorraine qui se terminent par Ange, Gondrange, Ayange, Ucange, etc. Et nous, on est natifs de cette région-là, on est Lorrains. On a des grands-parents qui étaient mineurs, qui étaient dans la sidérurgie. Et quand on voit ce que fait Sarkozy avec tous ces gens, quand on voit qu'il les licencie et qu'il s'en fiche complètement, parce qu'il s'en fiche, il parle beaucoup, mais c'est tout ce qu'il fait. Quand on voit qu'on licencie des gens... face à des multinationales qui s'en mettent plein les poches, ben moi je suis révoltée. Maintenant j'habite en Alsace, mais je pense toujours à ma Lorraine natale. Alors bon courage à tous ces gens-là et encore une fois merci pour vos émissions. À bientôt.
Et merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Merci à tous. Vous êtes vigilants, vous êtes critiques, vous ne laissez rien passer. Et c'est très bien, continuer. Même si ça ne va pas parfois sans quelques malentendus, et le malentendu en radio, c'est parfois un petit peu embêtant. Ainsi, le mercredi 15 avril, dans la revue de presse de 8h30, Alain Le Gouguec citait Charlie Hebdo en disant « On va croire que je fais de la lèche ». Or, vous le savez, il arrive souvent que l'effet produit par ce que l'on dit prend plus d'importance que ce que l'on dit. Alors aussitôt, des messages sont arrivés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, dans le genre, la revue de presse, faites de la lèche, car nul n'ignore sur cette planète, depuis le Darfour jusqu'au Sri Lanka et du Mexique au Tibet, Nul n'ignore la rumeur selon laquelle le directeur de Charlie Hebdo pourrait devenir le directeur de France Inter. Tout ça nous semblait relever du clin d'œil et nous avons diffusé un de ces messages, mais voilà le malentendu, notre confrère Alain Le Gougec a pris ça pas bien du tout, alors qu'évidemment notre intention n'était nullement de le blesser, ni de le critiquer, encore moins sa probité professionnelle n'étant pas à démontrer, évidemment. Probité qui est une denrée d'ailleurs qui se fait un peu rare sur les rayons de nos jolis métiers. Voilà donc, l'incident est clos, mais que ça ne vous empêche pas de continuer de nous avoir à l'œil, ou disons plutôt à l'oreille. Aujourd'hui, on continue Gandrange, un mensonge d'État sans importance, avec un point d'interrogation. C'est pas facile à faire, hein. Un état sans importance. Vous voyez, il faut mettre un point d'interrogation, parce qu'on sait pas très bien les conséquences sur le long terme d'un tel mépris et d'un tel cynisme d'État. Hier, on a retracé avec Aline Leclerc l'histoire de Gandrange, dont l'épilogue est assez sombre, comme vous le savez, mais ça ne va pas sans conséquence pour une région. On le sait, il y a les sous-traitants, il y a les intérimaires, il y a toute une région comme ça qui se trouve plongée peu à peu, qui s'enfonce dans la désolation. C'est des scénarios qu'on a vus se multiplier dans notre pays ces dernières années, mais qui actuellement se multiplient. C'est devenu un trait national, c'est une activité à temps plein que celle de virer des gens, de les mettre au chômage et de désoler, de dépeupler complètement ce pays, non seulement sur le plan industriel, économique, mais tout simplement social et humain. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ici, c'est Claude Routier, en Seine-et-Marne. J'ai 71 ans. Je voulais remercier toutes les blouses blanches qui défilent dans la rue, dans les rues de Paris et d'ailleurs en ce moment, de chercher à nous conserver une médecine égale pour tous. Parce qu'en ce moment, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Le moindre examen ou la petite intervention que vous faites faire à l'hôpital ou en clinique, et ben dans ce deuxième endroit, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il y aura un supplément d'honoraires. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et puis c'est pas remboursé par les mutuelles. Alors c'était Claude, je salue Daniel Mermet et tous les AMG, merci de nous donner la parole. Au revoir.
Patrick, praticien attaché au CHU de Nantes et médecin libéral, président du syndicat de la médecine générale. Pour vous dire que j'ai assisté ce matin à l'Assemblée générale des PH et du président de la CME, que j'ai entendu les mots d'accès aux soins pour tous, les mots d'accès universel aux soins, de solidarité, de valeur du service public, et que la question d'un mouvement qui serait corporatiste, pour moi, n'est pas de mise, et qu'il s'agit aujourd'hui de se poser la question des alliances avec les syndicats de salariés, notamment à l'hôpital, avec le mouvement de ces médecins. Donc c'est un mouvement qui porte, je pense, des vraies valeurs de solidarité, et l'ensemble de l'Assemblée Générale, je pense, était unanime. D'ailleurs, elle a voté une motion en ce sens, pour rejeter la loi Bachelot, qui, malgré quelques pseudo-avancées sociales sur la médecine de premier recours, d'ailleurs sans financement, ni garantie de pérennité, cette loi Bachelot donc porte un esprit véritablement de privatisation du service hospitalier et du développement des cliniques privées à but lucratif. Voilà. Donc je crois que ce mouvement est très profond. Les médecins, s'ils sont engagés dans l'hôpital public, c'est pas, ils l'ont redit encore aujourd'hui, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est qu'ils portent en eux des valeurs de soins, notamment aux plus démunis et à l'ensemble de la population dans son ensemble. Donc voilà.
Je vous appelle parce que je viens de passer et puis je vois que M. Balkany, encore une fois, il est en train de s'amuser de mettre une personne âgée de 82 ans à la porte. Il fermait son débit de boissons que ça fait plus de 50 ans qu'ils sont à Levallois. Il n'y a personne de côté gauche, il y a quelques deux ou trois personnes qui représentent le parti de gauche, disons les gens de gauche, quelques personnes comme moi, retraitées, mais moi j'ai la rage au cœur, j'ai envie de pleurer, je suis vraiment dégoûtée. Ici à Levallois, se passent des choses vraiment inadmissibles, et je ne comprends pas comment dans un pays comme le nôtre, comme le vôtre, car moi je suis espagnole, mais je suis touchée parce que ça me touche, hein, on peut voir et on peut supporter des choses comme ça. Balkany, Levallois, ça lui appartient. Il fait de Levallois ce qu'il a envie de faire. Il fout tout le monde dehors. Et voilà. Voilà la politique de M. Balkany et compagnie. Merci, M. Armin. Je vous suis depuis très, très, très longtemps. Et croyez-moi que j'ai les cœurs serrés, franchement, parce que je connais les gens et ça me touche beaucoup. Voilà. Bonne journée.
Salut Daniel, c'est Jean-Luc de Toulon. Dis-moi, je t'appelle là. C'est bien que le PDG de la Société Générale démissionne, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi une sacrée pub là, tu sais, celle qui dit Société Générale, nous sommes là pour vous aider. Et bon, ben, je crois que je suis pas le seul à penser que finalement, c'est plutôt nous qui allons aider la Société Générale. Salut Daniel.
Oui, Prolo qui se lève tôt. Vous l'avez manqué, le deuxième débat d'Yves Calvi sur France 2 à 23h30, hein? Faut aller se coucher pour Marnay. Ben, le président de l'UNEDIC qui cumule avec le MEDEF cherchait l'erreur. Eh bien, pour lui, c'est l'ultra-gauche et les syndicats qui font monter notre colère. Dans nos bleds paumés aux élections, c'est vrai, hein? Il est énorme le score du FN. De l'ultra-gauche, hein? C'est la faute à la vermine gauchiste. C'est elle qui délocalise nos usines. C'est elle qui favorise les actionnaires. C'est elle qui veut casser le code du travail. C'est elle qui brime les salariés au quotidien en faisant tourner tous les ans, nouveau petit chef haillon spécialisé dans le harcèlement. Et le sbire du Figaro qui pleure sur ses patrons meurtris, hein, quand ils prennent une décision de plan social. Continuez de vous pavaner, vos paroles, votre dédain, c'est ça le fruit de notre colère. N'oubliez pas, les travailleurs, ils n'ont pas besoin de patrons. En revanche, pour être patron, il faut des ouvriers. Vous avez tendance à l'oublier. Olivier de Bernay.
En exclusivité sur Vienne, le repère viennois de la Bastille, j'y suis présente, Chomsky et compagnie. Projection à l'amphithéâtre de Robin, en face de l'office de tourisme, ce jeudi 30 avril à partir de 19h45. Voilà, venez nombreux, vous pouvez vous inscrire éventuellement avec le mail ici-nous-y-sommes@gmail.com. ou par téléphone 06 31 65 74 85. On vous attend tous. Jonathan, Nicolas, Chloé, le Bougalou. Ciao, ciao.
La mauvaise nouvelle est arrivée par courrier hier. France 3. Selon la direction, impossible de sauvegarder une aciérie électrique et un laminoir à Gandrange.
30 mars 2008.
595 emplois seront supprimés.
Pas de bruit, rien. Bon, à part le... Le pyrotome qui coupe, le calme, on n'a jamais connu ça.
Pourtant, le 4 février dernier, le président de la République s'était déplacé à Gandrange. Il avait promis une participation de l'État dans des investissements pour sauver l'activité du site.
L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens, soit en pré-retraite, soit au chômage.
Mais Sarko, c'est un sacré baratineur, je vous jure. Il va dans le sens de ce que les gens veulent entendre. Ben les gars, ils l'applaudissent à la fin. Moi, je tombe sur le cul, je dis, merde, qu'est-ce qu'il raconte ce président? Il raconte qu'il va continuer l'usine. Bon, on verra bien. Hein. Et puis, c'est couché au moins de deux. C'est couché au moins de deux.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Aline Leclerc. Gandrange, un mensonge d'État sans importance.
T'as vu une photo qu'on a fait?
Si.
C'est là une photo que je travaille dedans.
Ça, c'est une photo que vous avez faite sur place, voilà, comme un souvenir.
Voilà, je travaille.
C'est vous, là?
C'est moi, celle-là.
Alors, on vous voit avec cette espèce de manteau argenté et votre casque, et puis vous êtes en train, je sais pas, devant des étincelles. Hein. Vous êtes en train de faire quoi de là?
Je coupe.
Vous coupez là? D'accord.
Ouais,
vous avez un masque anti-poussière sur la photo. Là, vous les gardez dans votre pochette avec vous?
Ah, je garde toujours, parce que c'est un souvenir, ça, c'est un souvenir. C'est la fête de licenciement, c'est là.
Alors, sur la feuille de licenciement, donc il est marqué, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux différentes instances représentatives du personnel et sont les suivantes. Dans le cadre des engagements contractuels pris avec ArcelorMittal, la société a été amenée pour répondre à ses besoins d'exploitation à faire appel à la société Sotrasi, donc de sous-traitance. Dans ce cadre, la société Sotrasi a conclu un contrat de prestation de services pour une durée de 6 ans. Toutefois, en janvier 2008, ArcelorMittal a confirmé la fermeture en 2009 de l'acierie électrique et du train à billettes. Cette situation a rendu la reconduction du contrat matériellement impossible et a amené la société à faire cesser ses relations contractuelles avec Sotrasi. Voilà.
Et voilà. 1 pour 3. Un emploi industriel supprimé égale 2 à 3 emplois perdus dans le secteur des intérimaires et des sous-traitants. C'est-à-dire que lorsqu'on dit 500 emplois sont supprimés, sont détruits, eh bien il faut compter 1000, 2000, 3000 emplois qui sont induits, qui sont supprimés par un effet d'induction. Et ça, c'est important parce qu'on parle pas de ces emplois-là, les intérimaires. Bon, je me souviens de reportage que nous avions fait vers Rouen, et eux-mêmes, les intérimaires, disaient « nous sommes des intérimaires de ». C'est tout ça qui se passe actuellement, qui s'accélère, et évidemment, la crise est un alibi, est une excuse, est un moyen, est une aubaine pour ces, entre guillemets, restructurations, c'est-à-dire recherche du profit sans aucune considération pour les salariés, pour les travailleurs, pour les intérimaires, comme pour les sous-traitants à Gandrange autour de l'entreprise. Il y a 70 entreprises de sous-traitants et je le rappelle, pour un salarié de Arcelor, puisque c'est ça dont il s'agit, ça fait 2 suppressions d'emplois ailleurs. Il y a bien d'autres conséquences, bien évidemment, dans toutes les activités. C'est la suppression, la réduction de la taxe professionnelle, c'est la réduction de l'activité pour les commerces. Enfin, on sait bien tout ça, mais ça se fait lentement, ça se fait peu à peu. C'est peu à peu qu'une région s'endort, que la désolation gagne. C'est pas immédiat, il n'y a pas un jour pile poil où ça se passe. C'est peu à peu que le sommeil envahit ces régions et la désolation et tout ce que ça comporte. Alors qu'est-ce qui dort là-dessous? Est-ce que ça fermente? Est-ce que ça se résigne? Est-ce que ça meurt? Est-ce que c'est du petit feu? Est-ce que là-dessous restent des braises? Et que peuvent ces braises? Où sont-elles? Question que nous nous posons en avançant jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis.
Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme étant des cerises, un siècle passé à l'ombre de Prévert. Mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, mur gris de poussière et de ruines. Entrer et sortir des milliers de fois et revenir. Entrer, sortir des milliers de fois et repartir. Relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne. Peuple du sud, du nord, mêlé, portugais, de Mirandela, russe blanc et polonais, rouge et noir venant d'Espagne, garibaldien de Romagne, arabes et sénégalais et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fonte grise et la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs.
La mauvaise nouvelle est arrivée par courrier hier. Les élus du comité d'établissement d'ArcelorMittal ont reçu un document qui porte sur l'avenir du site.
France 3,
selon la direction,
30 mars 2008.
Impossible de sauvegarder une aciérie électrique et un laminoir à Gandrange. 595 emplois seront supprimés. Cette restructuration avait été envisagée mi-janvier par ArcelorMittal. Aujourd'hui, les salariés sont plutôt fatalistes.
Et donc, après 12 ans de bons et loyaux services... Ouais. Alors ça c'est l'attestation pour les acédiques.
Voilà,
il y a marqué donc indemnité légale de licenciement 4 442
voilà,
euros.
Voilà, pour 12 ans.
Pour 12 ans.
12 ans. C'est pas beaucoup quand même aussi. Ben...
Ouais, avec 4 442 euros, ça va pas vous permettre de...
Non, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Ben...
De toute façon, vous avez pas pu, vous avez pas négocié en fait.
Non, j'ai rien du tout. Hein, dégage, c'est tout. On n'a pas besoin. Maintenant, j'ai 63 ans. Eh ben, j'ai pas beaucoup de trimestres. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je reste encore 2 ans dans le chômage. Je paye le loyer, j'ai l'électricité, il y a les gaz, il y a beaucoup de choses. Eh ben, qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste rien du tout. Qui c'est qui va embaucher? 63 ans, qui c'est qui va embaucher? Personne. Et mon métier, c'est maladie. Bon, nous acceptons toutes les maladies pour travailler, pour gagner, pour vivre. Moi, je dors avec les masques, madame, d'oxygène.
J'ai tous les papiers, madame, il est là.
Je dois contrôler pour que tu le...
Ah, donc ça, c'est votre...
Mais ça travaille.
C'est votre fiche du médecin du travail.
Je regarde.
C'est une fiche qui est faite où il y a marqué surveillance médicale spéciale pour les travaux exposants.
Voilà.
Donc au plomb et composé, aux poussières de fer... aux métaux durs, titane, tungstène, vanadium, au niveau de bruit supérieur à 85 décibels possible, aux températures, à des poussières ou émanations toxiques, traitement minerais, métaux et verreries. Ouais. Donc ça, il faut que vous soyez suivi médicalement pour tout ça.
Qu'est-ce qu'il va faire chaque 6 mois ou chaque 3 mois? Il va contrôler les mois.
Donc ça, c'est le spécialiste de, c'est un dossier d'un spécialiste de l'assistance respiratoire. Donc vous, en fait, vous avez plusieurs problèmes de santé dus à votre travail.
Tous les 6 mois, je contrôle les poumons.
Vous devez contrôler vos poumons tous les 6 mois?
Tous les 6 mois. Faut que tu payes. Comment on va faire?
Comment on va faire? Évidemment, les travailleurs des sous-traitants ne négocient pas. Les intérimaires n'ont pas de moyens de négocier. Ils ont le droit à un minimum, à quelques monnaies qu'on leur jette comme ça. Je vais vous dire quelque chose un peu off. On cherche depuis des mois des licencieurs, ceux qui mettent en œuvre ces plans sociaux. Il y a des gens qui mettent en œuvre ces plans sociaux. Il y a des cabinets qui sont chargés de ça. Il y a des directeurs généraux, des directeurs des ressources humaines, des gens qui sont formés, qui ont fait des études pour cela et qui appliquent ces plans. On aimerait les rencontrer. On essaye de prendre des contacts. C'est très difficile. C'est des gens qui, visiblement, n'ont pas envie d'apparaître à la lumière. C'est bizarre quand même, parce qu'après tout, c'est une tâche comme une autre et tout travail, tout exercice. Et là, il s'agit de sauver l'économie, il s'agit d'une fatalité, puisque c'est la crise qui nous frappe tous. Alors voilà des gens qui font le travail, sans doute, le mieux possible. Curieusement, ils n'ont pas envie de témoigner, ou bien nous n'avons pas suffisamment de talent, de journalistes, pour les convaincre de témoigner. Mais s'il y a des auditeurs qui ont envie de le faire, tiens, je parlais de la probité tout à l'heure, qui ont envie de le faire, ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera. Je rappelle le numéro du répondeur de la base où j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Revenons à nos moutons blessés.
Combien de temps vous avez travaillé à Gandrange?
En tout, presque il y a 25 ans. 25 ans, je travaille avec ce mafère, avec ce tracé.
Vous êtes venu, alors je vois, c'est marqué sur... Vous avez une veste et puis il y a marqué en gros Tunisie derrière. Hein. Vous êtes venu de Tunisie?
Oui, je suis Tunisie, mais c'est ma frère qui m'a amené ici en contrat. J'ai un contrat...
C'est eux qui vous ont fait venir?
Ah, c'est eux qui sont venus chez nous à Tunis. J'ai eu un contrat jusqu'à ici. Ben, je travaille chez eux. Après, je suis rentré chez Sotracy le 22-9-97.
12 ans, hein?
12 ans.
Pour la Sotracy?
Pour la Sotracy. Le 30 mars 2009, il m'a arrêté parce qu'en censément d'économie, ben maintenant j'étais à la CEDIC hier pour redonner tous les papiers de la CEDIC.
Et donc, quand l'usine a fermé donc, le 31 mars 2009, au sein de votre société de sous-traitants, la Sotracy, on vous a signifié votre licenciement économique.
Licenciement d'économie.
Aujourd'hui, il s'appelle Xavier Fandine. Il est délégué CGT de Gandrange et il a tiré de son expérience de salarié et de syndicaliste des conclusions et des observations que beaucoup de sociologues n'ont pas réussi à acquérir. On l'écoute.
Quand on supprime un emploi industriel, on supprime deux autres emplois induits. Oui, je m'appelle Xavier Fandine, je suis délégué CGT dans l'usine, membre du comité d'entreprise de l'usine, d'ArcelorMittal Grandange. Alors, quand on veut dire que si on ferme la scierie, on jette les intérimaires, on jette toutes les entreprises sous-traitantes, et elles sont nombreuses entreprises sous-traitantes qui travaillent pour nous, on en a comptabilisé 70. Et en plus de cela, il y a tous les emplois induits dans le commerce, dans le service public, dans l'administration, dans la santé, dans l'éducation. Donc, un emploi industriel en moins, deux emplois induits supprimés, trois emplois au total qui seront supprimés. Des repreneurs, il y en avait. La question a été soumise au conseil d'administration d'ArcelorMittal, où en disant, voilà, s'il y a un repreneur pour la scierie de Gandrange, est-ce que vous seriez d'accord? Et il y a un des administrateurs en particulier qui a dit non, on préfère fermer et avoir les garanties de reclassement d'ArcelorMittal plutôt que de se lancer à l'aventure avec un repreneur. Nous, on a regretté cette position-là parce qu'on trouve que fondamentalement elle est fausse, quoi. C'est pour moi une aberration totale en termes d'emploi. Hein, parce que des reclassements, effectivement, ils nous ont proposé des reclassements. Ils nous ont promis tous de nous reclasser. Mais les reclassements... Il se faisait sur des emplois qui étaient déjà occupés par les intérimaires ArcelorMittal Florange.
Ça veut dire qu'on a poussé les intérimaires exactement. Pour y mettre les titulaires de Gandrange.
Exactement. C'est exactement ce qu'on a fait. Il semblait pour eux que c'était un jeu normal, un jeu légitime. Comme si, quelque part, nous n'aurions pas tous droit à travailler et à vivre. Un intérimaire, pour eux, il a moins de droits à l'emploi qu'une personne d'ArcelorMittal. Alors c'est une espèce de solution qui me dégoûte, quoi. Et qui m'écœure carrément, quoi. Parce que moi, j'estime qu'un salarié, qu'il soit d'ArcelorMittal, d'une entreprise sous-traitante, ou qu'il soit intérimaire, c'est un salarié. Un salarié qui a le droit de croûter, de vivre dignement de son salaire, lui et sa famille.
À l'extérieur, c'est l'incertitude et l'angoisse des salariés, juste avant la colère et le chaos, lors du conseil d'établissement. Tous réclament des comptes à la direction.
France 3, 16 janvier 2008.
Ils sont en colère car au Luxembourg, le géant de la sidérurgie, l'Indien Mittal, a confirmé la suppression de 600 emplois, soit la moitié des salariés de la scierie de Gandrange en Moselle. Pourtant, deux ans plus tôt, en janvier 2006, l'Achmi Mittal s'était illustré par une opération séduction.
Je promets à tous les employés de l'entreprise que personne ne sera licencié à cause de cette fusion. Nous allons honorer tous nos engagements en termes d'emploi, de croissance et d'investissement.
Vous
En fait, on voit le toit de l'usine de Gandrange là-bas, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. C'est la scierie. Ouais.
Et Florange, c'est là-haut?
Oui. Ah, j'ai 24 ans, ça fait pas loin de 2 ans que j'étais intérimaire sur le site de Florange d'ArcelorMittal.
On n'est pas à l'usine, on est près de chez vous.
Oui.
Parce que, en fait, depuis aujourd'hui, vous ne travaillez plus à l'usine, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Mon contrat a été arrêté aujourd'hui même.
Tous les intérimaires partent?
Ah oui, oui, tous les intérimaires partent. Il n'y en aura plus un sur le site de Florange, ça c'est clair.
Depuis quand vous travaillez là-bas?
J'ai commencé le 20 août 2007, en premier temps en tant qu'opérateur, ensuite en tant qu'électricien. Quand j'ai commencé à travailler à Florange, la fermeture n'était pas programmée de Gandrange. Moi, je devais avoir un CDI normalement sur Florange, qui a été suspendu à cause de la fermeture de Gandrange. Ils avaient suspendu les embauches. Et ensuite, il y a eu la crise économique. Ensuite, ils n'ont plus embauché. Là, en vue de la conjoncture, ils ont mis fin au contrat intérimaire.
Donc vous, en fait, vous deviez avoir un CDI sur Florange. Mais comme il fermait sur Gandrange et qu'il reclassait des gens sur Florange, vous, en tant qu'intérimaire, on vous a dit pas de CDI. Mmh. Et puis après, quelques mois plus tard, on vous a dit peut-être un CDI. Mais là, il y a eu la crise et on vous a dit pas de CDI.
Oui, voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, pas de travail?
Aujourd'hui, pas de travail. À la recherche d'emploi. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir encore mes droits au chômage, mais ça ne va pas durer éternellement. Donc si je ne retrouve pas, je serai contraint de quitter mon appartement, de retourner chez mes parents. Enfin, ça entraîne tout un tas de conséquences.
Donc là, vous avez un loyer de combien, par exemple?
Presque 600 euros par mois.
Et vous gagnez combien?
Là, ça va réduire à peu près 1200 euros d'indemnité de chômage.
Donc 1200 euros d'indemnité de chômage, 600 euros de loyer, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi.
Voilà, c'est ça, parce que c'est la moitié du salaire, quoi. Je me suis investi pendant presque 2 ans dans la société et je pense qu'on n'est pas assez reconnu du travail qu'on a fourni pour eux, quoi. Parce que finalement, au sein de l'entreprise, au niveau des collègues, on était considérés un peu comme des gens d'Arcelor, quoi, même si on était seulement intérimaire. On vivait avec les gens au jour le jour, quoi.
Finalement, vous êtes des employés comme les autres jusqu'au jour où l'entreprise va mal ou jusqu'au jour où l'entreprise vous prend des décisions, ou là, vous êtes des sous-employés, quoi.
Voilà, c'est à peu près ça, oui. J'ai recommencé à tirer les CV, lettres de motivation. Il y a beaucoup de demandes d'emploi, pas beaucoup d'offres. Donc c'est forcément les gens les meilleurs, les plus expérimentés. Bon, j'ai un peu d'expérience professionnelle, mais pas suffisamment en vue des autres personnes qui cherchent des emplois. C'est ça le problème.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Et y a toujours la corde dite pendaison. Pour le nœud coulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garanti parce que l'eau réveille. Y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaire. Mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, c'est pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est le sens-dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Félix Leclerc. Félix Leclerc, une chanson des années 60. Je reviens sur ce jeune homme de 24 ans qui parle. Vous avez remarqué les chiffres du chômage en France récemment publiés. Le nombre des jeunes de moins de 25 ans inscrits au chômage pourrait monter jusqu'à 650 000 en 2009, du jamais vu depuis 1994, selon le Haut Commissariat à la Jeunesse. Mais ça va se régler, puisque le président Sarkozy a annoncé un plan d'urgence en faveur des jeunes axé sur l'essor de l'apprentissage et des formations d'alternance. Donc on est confiant. Pas tous. J'ai rencontré des gens à Gandrange, comme Xavier Fandine, que l'on retrouve, qui n'a pas vraiment confiance. Mais...
La sidérurgie subit de plein fouet la crise, ce qui n'était pas le cas au moment de la décision de la fermeture de l'entreprise.
Ou au contraire, c'était le moment phare de l'acier.
Exactement. Monsieur Mittal, il dit moi, je suis le sidérurgiste planétaire, comme les prix chutent. Il faut que j'arrête cette chute, les prix. Et donc, il arrête toutes les usines, lui. Puis à chaque pays de se débrouiller avec les conséquences sociales. Mais ça, c'est la notion même, comment Monsieur Mittal, il pratique. Vous voyez, c'est une approche, mais strictement cofinancière. Ce qu'il veut vite, là, c'est de se désendetter, parce qu'il y a la baisse du marché, et que donc il y a une baisse des prix, il veut contrôler la baisse des prix, il faudrait que ça se relève. Comme il a également l'obligation de verser des dividendes aux actionnaires, et comme il a promis de verser 0,75$ par action à tous les actionnaires, et je rappelle que M. Mittal et sa famille, c'est 45,6% des actions. Il détient, lui et sa famille, environ 650 millions d'actions. Il voudrait se verser, voilà, vous faites le calcul, ça fait du 500 millions, hein. Du 500 millions de dollars, il voudrait se verser, là. Donc, pour se verser 500 millions de dollars, il faut arrêter les usines. Donc, c'est strictement cofinancier, ça. Que les gens soient plongés dans des difficultés extraordinaires, ça, ils s'en foutent. Ouais.
Il a marié sa fille comme au temps des rois de France. C'était à Versailles en 2004. Lakshmi Mittal, ici, au bras de sa femme, a dépensé ce jour-là 50 millions d'euros. Une bagatelle pour cet Indien qui vit en Angleterre depuis 20 ans.
France 2, 30 janvier 2006.
Mais en dehors de ces quelques photos, cet industriel cultive volontiers le secret. Les rares images qui existent de lui le montrent en permanence, signant des contrats de rachat de sociétés dans le monde entier. Et enfin, une maison familiale hors de prix dans le centre de Londres.
Cette maison que nous avons discrètement filmée se cache derrière ces grilles qui donnent sur une allée totalement sécurisée. Lakshmi Mittal s'est en fait offert la demeure la plus chère jamais vendue en Grande-Bretagne, 100 millions d'euros.
Donc là, le 8 avril, en fait, hein, il y a eu une décision mondiale du groupe Arcelor d'arrêter certaines de ses usines. Et donc, dans les usines qui sont arrêtées pour un temps indéterminé entre 5 mois et 18 mois, il y a donc le site de Florange, qui est à quelques kilomètres d'ici, où des salariés de Gandrange devaient être reclassés.
Il a été annoncé l'arrêt des installations entre 5 et 18 mois. Personne ne connaît la durée. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un des aciéristes de Gandrange, à qui on avait promis, qu'au 31 mars, ils seraient tous mutés. Ils ne sont pas tous mutés. Et en fin de compte, si mutations il y a, ils vont se retrouver dans une mesure de chômage. Tous les entreprises sous-traitantes qui étaient sur le site de Gandrange, on leur a dit, vous en faites pas, on va vous proposer un marché dans l'usine d'à côté d'ArcelorMittal Florange. Quand on a contrôlé si c'était vrai, c'était très peu vrai. En réalité, ça s'est même pas avéré vrai du tout, puisqu'avec la fermeture des installations qui aura lieu fin avril, ils ont tous été jetés comme des malpropres.
C'était il y a un an pile, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy était à Gandrange pour rassurer les salariés du site ArcelorMittal.
France Inter, 4 février 2009.
Le président assurait aux salariés que les investissements nécessaires seraient pris en charge, au moins en partie, par l'État. Bilan aujourd'hui, l'acierie doit fermer en mars et seuls 43 des 675 salariés ont été reclassés pour l'instant. Autant dire que cet anniversaire a un goût très amer.
Donc là, vous avez vos bureaux d'un côté et puis de l'autre côté, des ateliers, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Ici, on est sur la site, il y a plusieurs entreprises. Donc là, l'atelier fait à peu près 900 mètres carrés. Bon, malheureusement, c'est pas nous, on est en location ici. Et aujourd'hui, il faut payer tout ça, quoi. Donc,
Et donc là, il y a trois personnes dans l'atelier, qu'est-ce qu'ils font en fait?
Là, ils font des travaux de serrurerie, on travaille un petit peu pour les communes.
Bonjour. Ces personnes, elles ne travaillent pas directement pour ArcelorMittal?
Si, j'ai M. Grilly et M. Théobald qui, eux, sont en principe sont affiliés sur le groupe Arcelor.
On ne les demande pas sur le
pas
site?
Pas du tout, non. On ne les demande pas sur le site, quoi.
Donc, vous les avez rapatriés à l'atelier, quoi?
Absolument, oui.
Voilà un sous-traitant, Gilbert Iamarelli, qui est avec sa petite boîte qui s'appelle EMI et qui fait de la maintenance. Il avait 24 salariés, il est obligé d'en virer une douzaine. Il va devoir à nouveau en licencier 6 et il redoute carrément devoir fermer bientôt son entreprise. Alors, il y a Gandrange et il y a Florange. On avait fait des promesses de recaser des gens, les salariés, à Florange. À Florange, oui, à côté. Mais le deuxième haut fourneau a été mis à l'arrêt aujourd'hui. Donc les deux hauts fourneaux sont arrêtés pour une durée indéterminée. Et c'est environ un millier de salariés qui sont au chômage partiel, plus les intérimaires, plus les sous-traitants. Il y a deux façons de tuer une grenouille. Vous pouvez la jeter dans l'eau bouillante, mais attention, elle risque de se débattre, de sauter, et que vous ayez du mal à la récupérer. Il y a une autre méthode qui consiste à mettre la grenouille dans l'eau froide et d'augmenter peu à peu la chaleur de l'eau jusqu'à ce que la grenouille ne bouge plus.
Alors Gilbert Iamarelli, je suis le gérant de la société EMI, qui est basé à Florange. Et on fait tout ce qui est travaux de maintenance industrielle, travaux de mécanique, d'accord, et tout ce qui est prestation de granulation des hauts fourneaux.
Au départ, vous travailliez aussi avec le site de Gandrange?
Oui. On était vraiment implanté sur Gandrange, avec 4-5 personnes en permanence. On assurait tout ce qui était maintenance des portiques du côté aciérie. Et depuis le mois de septembre à novembre, tout s'est dégringolé, quoi. Donc on a rapatrié le personnel de Gandrange sur le côté de Florange. Et puis aujourd'hui, ça fait effet boule de neige, quoi.
C'est-à-dire que comme Gandrange a fermé, l'équipe que vous aviez là-bas, vous l'avez rapatriée sur le site voisin de Florange. Et maintenant, le site de Florange est à l'arrêt.
Oui. Donc on avait 12 pontiers affilés directement sur le site. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus que 6. Et à mon avis, fin du mois, donc il y a tout qui va s'arrêter, quoi.
Votre entreprise, il y a combien de salariés, en fait?
Alors, au départ, j'en avais 24. Hein, et aujourd'hui, donc, il me reste 12 personnes, dont 6 qui sont affiliées directement sur le site des hauts fourneaux d'Ayange.
Et donc là, si le dernier haut fourneau ferme?
Oui, c'est catastrophe. C'est de nouveau 6 salariés, c'est de nouveau 6 familles, et c'est de nouveau dramatique. Ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est qu'on apprend ça par la presse directement. C'est ce que je trouve un peu dommage dans la vallée de la Fenge d'apprendre des choses comme ça, quoi.
Pourquoi vous dites c'est dommage ici?
Parce qu'on est des entreprises où on est lié en premier rang avec le groupe et je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est dans le flou.
Vous imaginez que l'entreprise, elle pourrait fermer définitivement?
Oui, complètement. Oui. Donc au mois de décembre, j'ai mis mon redressement judiciaire. Quand on se retrouve comme ça, pied au mur, je veux dire, il y a tout qui s'écroule, quoi.
Quand il y a eu l'annonce de la fermeture de Gandrange, on a parlé de 575 emplois supprimés, sans licenciement sec. Finalement, vous, les licenciements, vous les avez vécus, vous, dans votre entreprise.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que derrière, il y avait tous les sous-traitants et les co-traitants également de ce site. Qu'est-ce qu'on va devenir aujourd'hui, quoi? Je veux dire, on a tous des crédits en cours. Je veux dire, vous supprimez un poste, c'est un salaire en moins.
Vous avez des crédits, vous?
Tout à fait, oui. C'est des crédits de financement que j'avais au niveau de l'entreprise, quoi. Hein, donc,
est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, ça, vous avez la possibilité de les payer?
Je sais pas. Je pense que il faut voir comment que ça va se terminer. C'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est ces crédits, quoi.
Vous avez pu un peu discuter avec votre banque ou pas?
J'ai discuté un petit peu avec les banques. Bon, beaucoup ferment les portes. Hein.
Alors que l'État a dit on donne de l'argent aux banques pour qu'ils soutiennent les entreprises en difficulté.
À mon avis, ça a mal été dit, en tout cas au niveau des banquiers, quoi.
Là, dans la situation difficile où vous êtes, vous constatez aucun soutien des banques?
Non, aucun.
Une pierre tombale pour enterrer les promesses du chef de l'État.
France 3.
Il y a deux jours, les salariés du site ArcelorMittal de Gandrange ont manifesté leur désarroi.
6 février 2009.
Un an plus tôt, jour pour jour, Nicolas Sarkozy s'était engagé à assurer la survie de ce site après l'annonce de la fermeture du four de cette aciérie. Hier, le président de la République a tenu à leur répondre.
J'avais demandé à M. Mittal 4 engagements. Il y en a 3 qui ont été scrupuleusement respectés. Premier engagement, remettre 30 millions d'euros d'investissement dans le site, parce que le site ne fermera pas complètement. C'est un four qui ferme. L'a-t-il fait? Oui. Deuxième élément, créer une école de formation. Cette école de formation est-elle créée? Oui. Troisième engagement de M. Mittal, 10 millions d'euros de sa poche pour revitaliser. Cet engagement est-il tenu? Oui.
Le 31 mars 2009, la Syrie de Gandrange fermait ses portes définitivement. Et le 1er avril 2009, Nicolas Sarkozy, président de la République française, promettait de sauver le site Caterpillar de Grenoble. On retrouve Xavier Fandine.
Nicolas Sarkozy, quand il s'est adressé aux Français dans son émission, à la télévision, l'émission télévisée, il a annoncé des choses en disant « Mais j'ai obtenu de M. Mittal des tas de choses. » Mais alors, mais il a menti comme c'est pas possible. Il a dit « Je vais reconvertir à Grandrange, je vais faire des choses à Grandrange, je vais faire du captage de CO2. J'ai obtenu de M. Mittal qu'il investisse 30 millions pour la reconversion. Il va y avoir un centre d'apprentissage. » Tout est faux. Mais alors, incroyable de mentir de cette... Mais tout ce que je viens de vous dire, qui a été dit par le président public, est faux.
C'est-à-dire que les 30 millions, Mittal ne les a pas investis?
Non, il ne les a pas investis. Il les investira si la santé financière du groupe lui permet.
Le centre de formation, Nicolas Sarkozy dit à la télé, le centre de formation, il est créé. Il n'est pas créé?
Ben, il n'est pas créé, et il ne sera même pas créé. Il serait peut-être éventuellement créé pour une classe dans un établissement qui existe déjà, qui est à Yutz, là, à quelques kilomètres d'ici. C'est une classe. Il n'y a pas de centre d'apprentissage, il n'y en aura pas.
Donc les 120 apprentis dont on nous parle, ils ne sont pas là?
Non, ils ne sont pas là.
Il parle aussi de 10 millions d'euros investis par l'État pour la revitalisation.
Il n'y a pas d'obligation de résultat, comprenez? Dans ces 10 millions, il y a une enveloppe qui va d'abord être affectée à un cabinet d'études. Alors, je ne vous dis pas le paquet de pognon dans le cabinet d'études. Alors déjà, là, ça fait un paquet d'argent. Et ensuite, il y a peut-être de la revitalisation, si ça se fait. Et il n'y a pas grand-chose qui profile à l'horizon, hein.
Autre idée, c'est de créer un centre de captage du CO2.
Voilà. Donc, il devait faire une station de captage sur les hauts fourneaux d'Ayange. Ben, avec l'arrêt des hauts fourneaux, il n'y a plus de CO2 du tout. Il n'y a pas besoin d'en capter, parce qu'il n'y a plus d'émanation de CO2. Et ensuite, il devait transporter ce CO2, il devait être transporté à 80 km de là, dans la Meuse. Pas à Gandrange, comme il l'a dit, et qu'il l'a encore répété, hein. Et ça ne le gêne pas de mentir une fois, deux fois, trois fois, sur le même sujet. Hein. Et ça ne le gêne pas. Hein. Il ment effrontément, comme c'est pas croyable, mais qu'a été le toupé. Résultat des courses, ils ont fermé la Syrie, ils ont parcassé tout le monde, ils ont licencié tous les sous-traitants, ils ont licencié tous les intérimaires, et les gars qui sont à Florange, bon, on ne sait pas quoi on va en faire. Hein.
Mais on ne peut pas parler de tous les dossiers...
Nicolas Sarkozy.
En les survolant. Donc moi, je veux bien répondre sur Caterpillar. Caterpillar, c'est une entreprise qui fabrique des engins de terrassement.
Europe 1, 1er avril 2009.
Et qui travaille notamment pour les États-Unis. La chute de la demande est de 80%. Je verrai à sauver le site. Je recevrai cet intersyndical puisqu'ils m'ont appelé au secours, d'après ce que je comprends, et on ne les laissera pas tomber. Sur Gandrange, j'ai eu M. Mittal un nombre de fois incalculable, il a tenu ses engagements, la production d'acier mondial a été divisée par deux. Je peux passer quand même pas de ma faute si absolument il y a moins, comme il y a moins de croissance, il y a moins de consommation.
Donc il faut faire attention et quand on fait des promesses.
Non, absolument pas, parce que les promesses que j'avais prises, ces promesses ont été scrupuleusement tenues.
Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Et puis, je tiens à remercier, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les sous-traitants, les co-traitants, les intérimaires et tous ceux qui sont présents. Donc, c'est vrai que ce qui se passe actuellement, la journée qui a été donc faite aujourd'hui, c'est pour montrer qu'on a un mécontentement, la journée de la colère, et qu'on ne veut pas que notre site ferme, parce que là, on a beau dire c'est une fermeture temporaire, on se pose la question si, au niveau du dictionnaire, si la page avec le nom temporaire existe encore. On a des craintes sur la pérennité de notre site. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'une étape, une guerre, ça ne se termine pas avec une seule bataille. Il faut qu'on continue, qu'on soit solidaire, unitaire, et il faut se battre.
Donc vous avez pris la parole là tout à l'heure.
Oui.
Pourquoi vous faites ce mouvement ce matin à Florence?
Pourquoi? Parce que c'était la journée de la colère, parce qu'on est mécontent des annonces qu'ils nous ont faites sur la fermeture, soi-disant temporaire de la filière liquide.
Mais donc quand... ça, c'était début avril quand vous avez annoncé ça?
Oui, début avril. Il n'y a pas de date de redémarrage. Nous, ce qu'on craint, c'est que ça ne redémarre pas. Vous savez, des promesses qui n'ont pas été tenues, ça fait 20 ans qu'on entend ça. On tient toujours des promesses qui ne sont jamais tenues. Donc les patrons, on n'y croit plus. C'est des menteurs. Concrètement, c'est des menteurs. Et on en a marre. Eux, ils pensent qu'à l'intérêt des spéculateurs, ils boursicotent, ils se remettent plein les poches, et puis nous, on n'a rien. Ceux qui paient toujours les pots cassés, c'est toujours les mêmes, c'est les salariés. Les salariés, leurs familles, les communes environnantes. Il y a déjà beaucoup d'entreprises sous-traitantes qui ont fermé, qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y a des autres qui sont licenciés, de genre Sécométal, et puis d'autres entreprises. Ça devient de pire en pire, ça va devenir un désert, ça continue ici. On va faire quoi? Un élevage de lapins? Il faut arrêter les conneries. On ne peut pas laisser faire.
Bonjour Jackie.
Ça va bien?
Bonjour Xavier. Vous êtes là ce matin devant Florange avec les salariés de Florange? Pourquoi en fait?
Parce que la bagarre elle est vraiment commune, quoi. C'est au-delà de la solidarité classique, puisque les gars de Gandrange devraient être mutés ici. Et la semaine dernière, quand on a rencontré le directeur, là, M. Blafard, il nous a dit « Moi, je respecte mes engagements. » Mais on est venu lui montrer que c'était pas vrai, parce que les gars de Gandrange qui sont là, on leur a pas proposé d'emploi. Et pourtant, l'engagement, c'est de dire « On va proposer quelque chose. » Et à Florange. Donc on est venu lui montrer que c'est pas vrai.
Oui, mais on pourrait vous dire « Bah oui, mais Florange, il y a du chômage partiel parce qu'il y a la crise. »
Non, mais la crise, elle a bon dos. Il y a des engagements qui ont été pris avec les salariés. Moi, c'est ça qui m'importe. À partir du moment où il y a des engagements qui sont pris avec les salariés, et écrits, pas comme Sarko qui fait que de la gueule, hein. Mais la direction, elle a écrit. Donc à partir du moment où c'est écrit et signé par le directeur, il faut respecter ce qu'on écrit. Si on n'arrive plus à tenir ce que l'on dit, à plus tenir ce que l'on écrit, alors la société, elle part en sucette. Chacun fait ce qu'il veut dans ce monde, alors. Ben les salariés seraient légitimés à être violents. Ça veut dire ça.
À l'autre bout de la France, à Grenoble, à Caterpillar, ils ont séquestré leur patron.
Quand on dit séquestration, ils ont été retenus, franchement, parce que séquestration... Mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'hommes à qui on demande des explications et des garanties. C'est pas de la séquestration, ça. C'est pas de dire je retiens sous la menace d'un revolver ou pour obtenir je ne sais pas quoi, une rançon. Ceux qui retiennent les directeurs, là, c'est pas des bandits. C'est des salariés, comme tout le monde, qui défendent la casse-croûte, qui défendent leurs moyens d'exister.
Nicolas Sarkozy a dit là-bas aussi qu'il allait sauver le site.
Ouais, alors là, ça fait rire, hein, franchement. Bah écoutez, moi, quand on a appris pour Caterpillar et que M. Sarkozy avait promis pour eux, on les a appelés. On les a appelés immédiatement. Et au moment où on les a appelés, ils étaient en entrevue avec des représentants de l'Élysée. Alors je ne sais pas ce qu'ils disaient, apparemment les représentants de l'Elysée voulaient peut-être que Sarkozy vienne à Caterpillar dans l'Isère. Alors nous, on leur dit écoutez, nous on vient avec vous. Hein. Parce que nous on a des choses à dire à Sarko. Hein. Plutôt à faire. Parce qu'on veut tous lui jeter une godasse. Il paraît que jeter une chaussure à la face d'un président, c'est le mettre plus bactère. Alors on veut tous lui jeter une godasse. Et une godasse de sécurité, parce que nos godasses à nous, de sécurité, elles ont un bout de ferraille au bout, vous voyez. Bien qu'ils se rendent compte que là, il est blâmé le président.
20 milliards d'euros, c'est l'estimation du montant investi par l'État français pendant 20 ans dans la sidérurgie et qui finalement bénéficie à un groupe industriel étranger et à quelques grands actionnaires privés. Merci à tous, c'était un reportage d'Aline Leclerc, merci à Jamel Semrouni. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org, et là aussi vos messages sont attendus. À la technique, Éric Morin et Rémi Quincez aujourd'hui, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Quant à elle, attend vos messages au répondeur de La Basse J'y suis. Le numéro, vous le saviez, c'est le 01 56 40 37 37.